Et pour ma dernière de la saison, dernière collaboration avec Sylvain Ménard, on a déménagé du vendredi au jeudi pour s'arrimer ce soir. Nous plongeons dans l'année 1976. Bonsoir Sylvain.
Bonsoir Mario, bonsoir Mario. C'est la première fois que je me retrouve avec deux Mario Langlois de toute ma vie.
C'est quelque chose, explique à l'auditoire parce qu'ils ne comprennent pas.
Il y a le Mario Langlois à l'animation et le Mario G. Langlois qui est à la réalisation ce soir.
Exactement, des deux côtés de la vitre, il y a Mario Langlois.
Pas souvent dans une vie, ça. Bon, on commence ça avec...
C'est vrai, pareil.
On commence ça avec André Gagnon, pièce instrumentale par excellence de 1976. Wow! Grand paradoxe dans cette pièce-là d'André Gagnon, l'instrument qui est le moins mis à contribution, c'est le piano.
Effectivement.
Et c'est la basse qui vole le show, c'est le cas de le dire. C'est Jean-Guy Chapados qui joue la basse là-dessus. Et tu sais que sa partition de basse n'existait pas avant d'entrer en studio. Il y avait l'intro de la pièce, puis là, il se demandait qu'est-ce qu'il était pour faire. Il dit « Ah, je pense que j'ai une idée », puis ça fait
« Pas pire recette. »
Oui, c'est ça. George Thurston qui était au conga. C'est vraiment... C'est là qu'on va l'entendre de la basse. Écoute bien ça. Ça, c'est ce qu'on appelle un hook, pour lequel Jean-Guy Chapados n'a jamais été crédité puis il a poursuivi une scène de composition. Mais c'est ça la vie des musiciens accompagnateurs. Hein? Bon, c'est 1976. Est-ce que ça te donne une idée? C'est une année olympique.
En effet.
Bon, c'est ça. À Montréal, on a eu une fois les Jeux olympiques. On a fini les payer, genre 35 ans plus tard. Mais c'était quand même quelque chose du 17 juillet au 1er août.
Hein? Ça coûtait cher, mais c'était un beau party.
Quand même... Ah oui, c'était un beau... Oui, c'était vraiment un beau party. 92 pays au rendez-vous. Qui avait lu le serment des athlètes? Pierre Saint-Jean, l'haltérophile. Les porteurs de la flamme pour la première fois. Deux porteurs de flammes, un porteur, une porteuse, un jeune garçon, une jeune fille, un francophone, une anglophone. C'était des Jeux canadiens, ne l'oublions pas. Ce qui fait qu'il y avait même une mascotte aux Jeux olympiques, la mascotte Amic, qui était une espèce de castor.
Ça, je m'en souviens pas trop, par exemple.
Donc, on se sacrait pas mal, je vais te le dire. Ben, franchement, il y avait le logo des Jeux olympiques de Montréal avec le M qui ressortait des anneaux olympiques. Et ça, il y avait une dame, Monique Berliou, une Française de la CIO, qui avait dénoncé l'utilisation de ce logo-là, disant « On voit pas les vrais anneaux olympiques, on ne voit que votre dessin. » Les gens ne l'avaient pas comme prix, mettons. Ce qui fait que, ben c'est ça, il y a 6000 athlètes qui étaient venus faire un tour ici, 1260 femmes. Il y avait quand même une grosse différence à ce moment-là. Les pays africains qui étaient partis en tout début des Jeux, vu la présence de la Nouvelle-Zélande, qui avait participé à des compétitions avec l'Afrique du Sud. L'Afrique du Sud avait été boycottée aux Jeux olympiques, donc la Nouvelle-Zélande, sa présence, ça avait causé problème. Ce qui fait que les coûts totaux des Jeux... entre 1,5 milliard ou 1,8 milliard, on ne sait plus trop, mais à un moment donné, ouf, 300 millions plus ou moins. Hein. Le stade n'était pas prêt pour l'ouverture. La tourbe a été posée la veille de la cérémonie d'ouverture, ce qui fait qu'on avait très peur quand les athlètes ont fait leur entrée dans le stade et qu'ils sont allés s'installer dans le milieu de la piste d'athlétisme. Là. Qu'est-ce qui était pour rester de la tourbe?
Ouh.
Et le lendemain matin, ils ont été obligés de ressortir des canettes de peinture pour remettre ça vert parce que ça avait été piétiné. Oui, oui, c'est ça. Et la Grande Tour a été achevée en 1987 et a reçu ses premiers locataires. 35 ans plus tard.
35 ans plus tard, les premiers locataires.
C'était le bon temps, c'est ça. Les athlètes russes étaient venus pour célébrer le 10e anniversaire des Olympiques de Montréal en 1986. Et il était arrivé et le tour n'était pas fini. Ça a l'air qu'il était plié en deux quand il avait vu ça. Alors voilà, ça c'était notre premier volet olympique. Deuxième volet avec... Oh, Show Me the Way de Peter Frampton. Avec son fameux talk box. Peter Frampton, qui avait déjà une carrière. Bon, ben c'est ça, Frampton Comes Alive, cet album-là. On va le faire jouer un petit peu plus fort. Frampton Comes Alive, ça avait été un immense succès. Ça avait été des centaines et même des millions d'albums vendus. C'était un album double live, ce qui était quand même assez spécial pour un gars qui n'avait pas une reconnaissance aussi forte que ça aux États-Unis. C'était un Britannique qui avait joué pour Humble Pie avant. C'était un guitariste, un jeune prodige, hein, Peter Frampton. Donc, il était déjà très jeune quand la vague Frampton a frappé. Mais qu'est-ce qu'elle a frappé fort, par exemple? Ça, c'est un hit. Ça, c'est aussi le genre de chanson qui nous a tous fait croire à un moment donné qu'on était capable de jouer de la guitare. Quelle horreur! Donc, je te rappelle, pour les Jeux olympiques de Montréal, le film officiel des Jeux, le film de Jean-Claude Labrecque, fantastique. Il y a, parce que tous les Jeux olympiques ont un film officiel. Le nôtre avait été réalisé par Jean-Claude Labrecque qui s'était attardé à plusieurs personnalités. Il avait fait des bons choix. Hein. Il avait suivi Bruce Jenner, entre autres, tout au long. Et des jeux.
Devenu Caitlyn.
Ben oui, c'est ça. Mais il avait aussi fait... Il avait fait une erreur qui n'était pas une erreur, c'est-à-dire qu'il avait, il s'était attardé au parcours de Nelly Kim en gymnastique, mais c'est Nadia Comaneci qui était passée et qui avait tout remporté, cinq médailles. Mais Nelly Kim, on la voit, c'est elle qui s'en venait au jeu en étant convaincue qu'elle était pour tout rafler en gymnastique.
Et elle avait eu quelques 10 également dans ses notes.
Oui,
elle rivalisait, Kim, là.
Ce qui est plate pour Nelly Kim, c'est qu'elle a remporté une médaille de moins que Nadia, mais personne ne se rappelle d'elle. C'était une Soviétique. Elle a quand même eu 3 médailles d'or et une médaille d'argent. Mais la reine des Jeux, Nadia, ben, avait eu 5 médailles, 3 d'or, une note parfaite. C'est la note parfaite qui avait tout changé. La première note parfaite, parce qu'effectivement, Nelly Kim en avait eu aussi.
Je me rappelle de Nadia Comăneci avec une autre athlète roumaine qui chantait en français à Appelez-moi
oui.
Lise.
Theodora Ungureanu, qui avait chanté Je suis un petit
l'encyclopédie.
Garçon. Non, je me rappelle très bien.
Pierre-Sylvain
de ça.
Ménard.
Oui, ben, j'avais pas grand-chose à faire dans le temps, faut dire. on se rappelait tantôt, pendant la pause, de Greg Joy, sauteur en hauteur canadien, qui le samedi avait surpris tout le monde en allant chercher la médaille d'argent. La médaille d'or, c'était le Polonais Zula qui est allé chercher ça, parce que tout le monde s'attendait à ce que ce soit Dwight Stone, l'Américain baveux, qui s'en était pris aux Canadiens français pendant la semaine qui avait précédé la compétition. Et il s'était présenté cette fois-là pour la finale avec un T-shirt sur lequel il était marqué « I love French Canadians ». Avec son gros smile, finalement, il a fini troisième. Il est arrivé gagnant, il était reparti troisième. Tout le monde était content. L'équipe de basket de l'Union soviétique, il y avait un joueur qui devait mesurer 7 pieds 1, 7 pieds 2 là-dedans et qui passait ses soirées à la discothèque des athlètes du village olympique. Puis lui, son trip, c'était de boire du coke à volonté parce qu'il avait accès. Il avait accès aux fontaines de coke et les athlètes russes n'étaient pas vraiment habitués à ça. Donc, ils se servaient. À chaque fois qu'il se levait, le gars, semble-t-il, qu'il allait chercher 24 gobelets de coke.
Ouais.
Il pouvait se lever 3-4 fois dans la soirée. Il devait avoir des nuits actives et il devait faire de l'insomnie, en tout cas.
Il n'y a qu'une d'autres plus tard dans le futur qui ont eu des nuits actives qui étaient dans une fontaine de coke, mais c'était pas même ça.
Non. On parle pas de ça. Et il y a un autre Russe qui s'était illustré, et on le met entre guillemets, c'est Boris Onischenko au pentathlon moderne, qui, lors d'une épreuve à l'épée, avait installé un dispositif pour actionner la touche. Puis ceux qui compétitionnaient avec lui venaient se rasseoir en disant « Il m'a pas touché. Il me semble qu'il m'a pas touché. » Et à un moment donné, les juges étaient allés saisir son arme. Il avait vu qu'il y avait un dispositif avec un petit bouton dans le manchon. Et effectivement, il y avait son arme
incroyable.
Était truquée. Ça fait que voilà, évidemment, ben, la Sévirène à la course, le gars court le 5000 mètres, le 10 000 mètres, et au lendemain du 5 000 mètres, il court le marathon et il termine cinquième, alors qu'il avait gagné l'or aux 5 000 et aux 10 000. Est-ce que le gars avait recours à certaines substances? En tout cas, il était bien en forme.
La question demeure.
On y va. Mario, on change de page. Bon, le blues de la métropole de Beaudommage.
Pensez pour Marc Bergevin, dont c'est le groupe préféré en français, oui.
Bon, ben parfait. Aux salutations à Marc qui nous écoute d'ailleurs. OK. En 67, tout était beau, mais en 76, tout était gros. C'était le deuxième grand spectacle de la fête nationale sur le Mont-Royal, parce qu'on pense toujours que ça a duré pendant 10 ans. Il y en a eu 2 ans, 1975-1976. 76, tu as eu le spectacle une fois 5 avec Deschamps, Vigneault, Charlebois, Léveillé et Ferland. Mais le lendemain, il y avait Hockey Nouvela, c'était avec Beaudommage, Harmonium, Octobre, Contraction, Richard Marc-Claire Séguin, je me rappelle bien, Raoul Duguay aussi. Ce soir-là, c'était la grosse, grosse, grosse affaire. Et c'est aussi le soir où Serge Fiori et Richard Séguin se sont rencontrés, puis ça a donné le projet Fiori-Séguin quelques années plus tard.
Ah,
et tu sais quoi? Au début, c'était Fiori-Séguin-Rivard.
Oh, ouais.
Michel Rivard est assassiné.
D'étonnement en étonnement.
Ouais. Michel Rivard était censé participer au projet Fiori Séguin-Rivard, mais finalement, il s'est accroché les pieds en Belgique, il est tombé en amour, puis il n'a pas eu le temps de venir faire l'album avec les deux autres.
En l'amour.
Ce qui fait que le projet Fiori Séguin est devenu un duo. Ça a commencé cette fois-là. Mais Jean Drapeau l'avait dit. C'est la deuxième fois que je vous prête la montagne, mais c'est la dernière fois. Et effectivement, il n'y avait pas eu tard. Ça a pris 30 ans à réparer les dégâts causés à la nature sur la montagne. Le monde coupait des arbres, ça fait des chutes.
Dommage, parce que c'est un bel endroit, mais ben oui, sauf que le monde ne sait pas se tenir.
C'est un naturel parfait. Mais le lac des Castors était transformé en poubelle. Ce qui fait qu'il n'y a plus jamais eu d'autres fêtes nationales sur la montagne.
Fait penser au Mont-Bellevue, Sherbrooke, il y a eu des belles fêtes de la Saint-Jean-là, mais ouais. Je ne sais pas c'est quand la dernière fois.
Un petit détail avant de passer à la pause. Les fêtes les plus fédératrices, si tu veux, au niveau de l'esprit nationaliste, où est-ce qu'on s'affirmait puis tout, ont quand même été organisés sous le régime libéral qui, en quelque part, a participé à sa propre défaite quelques mois plus tard. Fait que voilà.
Commentaire intéressant et sur quelques notes de bois dommage encore, on se dirige vers la pause et on revient avec la deuxième portion de notre voyage en 1976, mais nous sommes toujours en 2020, on revient dans un instant. Le blues, la métropole. Et c'est reparti 1976, ouais. Toujours avec Sylvain Ménard.
Et le Steve Miller Band, Rockin' Me. Faut que je te dise quelque chose à propos de la voix de Steve Miller, puis Mario qui est de l'autre côté à la console l'entend sûrement. On dirait que sa voix est comme doublée. C'est que ce gars-là a une infirmité aux cordes vocales. Fait qu'à un moment donné, on a l'impression qu'il y a deux voix et qu'il y a un souffle qui passe entre les deux. Il n'y a pas d'effet dans sa voix, Steve Miller. On dirait que c'est filtré comme d'ailleurs.
Ouais.
C'est vraiment une infirmité.
Spécial.
Oui.
Ben, ça sort bien, en tout cas.
Ben, ça lui donne une voix particulière. Bon, on va aller dans les sports. Ça fait longtemps qu'on n'a pas parlé de sport. Coupe Stanley aux Canadiens en 4 matchs contre les Flyers de Philadelphie. Quel bonheur. L'époque des Broad Street Bullies venait de prendre le bord. La série s'est jouée... L'avenir du hockey s'est joué cette fois-là avec un plaquage de Larry Robinson contre Gary Dornhofer. Dornhofer s'en venait sur l'aile droite et Larry Robinson a décidé d'aller le plaquer dans la bande. Résultat, il l'a tellement rentré dans la bande qu'ils ont été obligés de faire venir les menuisiers avec marteau et clou pour replacer la bande. Quand on dit étamper un gars dans la bande, là.
On regardait ça pendant la pause, tout un souvenir. Je t'ai dit que Larry m'a dit une affaire.
Et en toute légalité.
C'était pas un clip pour vrai, pour défaire les Flyers, ça prenait du talent, mais ça prenait des hommes, je sais.
C'est ça. Mais en toute légalité, le plaquage, mais ça a fait cette fois-là dire aïe aïe. Ça peut être ça aussi, jouer proprement, mais solidement au hockey. Ce qui fait que les Canadiens, première Coupe Stanley de la série de 4 de la fin des années 70, les meilleurs marqueurs de la Ligue, 4 francophones dans le top 6.
Marcel Dionne?
Non, même pas.
Même pas, il était pas là encore. Ah non, 76, c'était trop vite.
Guy Lafleur, premier. Gilbert Perrault, troisième. Pierre Larouche, cinquième. Et Jean Rattel, qui avait fini sixième. Rattel, c'est l'année où il avait été échangé des Rangers aux Bruins. Il avait quand même fini sixième compteur cette année-là. Les deux autres du top 6, c'était Bobby Clarke et Bill Barber de Philadelphie. Les trophées, Denis Potvin qui remportait le trophée Norris, meilleur défenseur. Et c'était une grande première depuis 9 ans. C'était la première fois que Bobby Orr remportait pas le trophée Norris cette année-là. Le trophée Calder, Brian Trottier des Islanders de New York. Jack Adams.
Qui se préparait tranquillement à succéder aux Canadiens.
Oh, et puis lui, c'était un pas pire avec Bossy. Mettons que ça a fait un bon 1-2 à un moment donné. Donc, le trophée de Jack Adams, meilleur entraîneur, Don Cherry, c'est bien pour dire. Il a déjà été bon une fois dans sa vie. Le pire repêchage de toute l'histoire des Canadiens, 1976. Le premier choix, Peter Lee. Le deuxième, Rod Schott. Le troisième, Bruce Baker. Le quatrième, Barry Melrose, qui a ensuite été instructeur, mais qui n'a jamais joué pour
Kings.
Montréal. Bill Baker, 54. Quatrième choix, c'est lui qui a joué le plus de matchs pour les Canadiens. Il en a joué 11. Sinon, donc c'est ça, les 12 premiers choix des Canadiens cette année-là ont totalisé 11 matchs dans l'uniforme du tricolore. Tous les autres ont joué ailleurs et très peu. Donc, c'est drôle, la meilleure année du Canadien, ou à peu près, ça a été le pire repêchage cette année-là. Cette année-là, Daryl Sittler s'était illustré au mois de février en ayant une petite soirée.
De 6 buts.
6 buts, 4
Je me rappelle, je regardais ça à la télévision.
Oui, samedi soir contre les
Sans
Bruins
le câble.
De Boston. Oui, ben,
on avait CBC. Fait que quand le Canadien était fini, on tournait de poste.
Ben, je me rappelle très bien.
Et il avait scoré son 6e dans l'arrière du filet, si ma mémoire est bonne, ou le 5e.
Ah non, ce soir-là, il aurait lancé son patin, puis ça aurait fait un but.
Oui.
Non, non, ça n'avait pas de bon sens. 6 buts, 4 passes contre le gardien de Boston, Dave Rees, qui n'a jamais rejoué dans la Ligue nationale.
Ouais.
On se rappelle de ce gars-là pour ça. Ah oui,
moi, je ne m'en souvenais pas du nom du gardien.
Et c'est Daryl Sittler qui avait permis aussi à l'équipe canadienne de remporter la Coupe Canada en 1976. Tu sais, les photos qu'on voit des fois
oui.
où les joueurs se sont échangés leur chandail à la fin, ben c'est exactement ça qui est arrivé cette fois-là. C'était vraiment la fête du hockey. La Coupe Canada de 1976, pour moi,
beau comme, tournoi.
Comme qualité de hockey, c'était encore meilleur que la série de 72.
Et Coupe Canada 87 n'a pas piqué des verres.
Oui, effectivement. Là, ils l'ont passé à Coupe Canada 87
Gretzky,
l'autre fois pendant le temps. Je me suis vu dedans. Ça donne un choc, se voir 33
oui,
ans plus tôt.
Hey. Il était partout.
Il était partout. Il était pas mal mince aussi. Je prenais moins de place à l'écran. Fait que voilà, le Super Bowl cette année-là, les Steelers de Pittsburgh, 21-17 contre les Cowboys de Dallas et les Reds de Cincinnati. Ben, c'était l'époque des Reds, la Big Red Machine, qui avait remporté la Série mondiale contre les Yankees de New York en 4 matchs. On continue. Voilà. Bon, ça, c'est le cœur du 15 novembre, ici baptisé pour chanter le chant de ralliement du Parti québécois pour les publicités en 1976. Le Parti québécois qui prenait le pouvoir après 6 années dans l'opposition. Et cette chanson-là, composée par Stéphane Venn, à partir d'aujourd'hui, demain nous appartient, c'est une chanson qui avait été composée pour le Mouvement des Jardins qui l'avait refusée. Ça fait qu'au Parti québécois, on l'a appelé à un moment donné, pourriez-vous nous composer une chanson? Bien sûr.
Elle était toute prête.
Elle traînait dans son tiroir. Ça fait que, mais c'est devenu un 45 tours et qui se vendait dans les magasins. Ça avait été un bon succès. Du côté des libéraux, la campagne publicitaire était pas bien, bien bonne. C'était pas convaincant. C'était Robert Bourassa qui se promenait le dos voûté, filmé de dos dans un parc, perdu dans ses pensées. Alors que le Parti québécois, eux autres, c'était cette chanson-là avec un coup de balai. Et le slogan, il est temps que ça change, ou une affaire de même, là. Disons que le 15 novembre, on s'en rappelle, les péquistes avaient remporté 71 sièges, donc 65 de plus que la fois d'avant. Les libéraux, 26, ils en avaient perdu 76. Et l'Union nationale était revenue au monde le temps de quelques années avec Rodrigue Biron à sa tête. Il y a des têtes d'affiche qui avaient été battues aux élections. Robert Bourassa avait été battu lui-même dans Mercier par le poète et journaliste Gérald Godin, ce qui était très péquiste comme victoire d'ailleurs, là. C'est un intellectuel qui allait battre l'ancien premier ministre, Lise Bacon qui avait perdu aussi, Jean Bienvenu, Guy Saint-Pierre, Jean Marchand qui était revenu d'Ottawa pour sauver le Québec. Pas sauvé grand-chose, il a même pas sauvé sa peau. Et finalement, ben, c'est l'élection de Lise Payette. Et fait à remarquer, deux mois avant cette élection-là, de 1976, il y avait eu une tentative de putsch contre René Lévesque menée par Robert Burns et Claude Charron. Finalement, bon, il s'était calmé. Bon, on a failli putcher René Lévesque deux mois avant les élections. C'est ça. Et voilà. Est-ce qu'on a le temps d'en faire une dernière? Oui, OK. Oh. Donc, Fear the Reaper,
oh.
The Blue Oyster Cult. Le plus grand solo de cloche à vache de toute l'histoire du rock. Alors voilà, des faits divers. 1976, les Jeux d'hiver, justement, c'était à Innsbruck, en Autriche. Création de la compagnie Apple, Steve Jobs et Steve Wozniak, bien sûr. Howard Hughes, qui décède à l'âge de 70 ans. C'est les débuts de l'émission Family Feud, que je regarde encore religieusement tous les jours, en 1976. Jimmy Carter, qui est devenu premier ministre, quelle hérésie, président des États-Unis. Il avait défait Gerald Ford à cette occasion-là. Et le 6 septembre, c'était la première rencontre de Jerry Lewis et de Dean Martin depuis une vingtaine d'années. C'est Frank Sinatra qui avait organisé ça en surprise à Jerry Lewis lors de son téléthon. Ça a été les retrouvailles de Dean Martin et Jerry Lewis qui ne s'étaient jamais reparlés, OK? Et qui se sont jamais reparlés par la suite. Ça avait été un événement. Est-ce que ça a fait l'effet? Est-ce que ça a fait plaisir à tout le monde, cette rencontre-là. On a encore des gros doutes. Est-ce que l'accolade était vraiment sentie et sensible? On ne le sait pas. Mais ça a fait un grand moment de télévision. Ils sont allés chercher de l'argent pour le Téléthon de Jerry Lewis. Ça fait que c'est pas mal ça qui est arrivé en 1976. On arrête ça là ou... Ouais, bon, ben voilà.
Ben, on peut se quitter sur une note musicale, mon cher.
Okay. C'est correct. On va se quitter sur la bonne note musicale à part de ça. On y va, la prochaine. Luc Cousineau, Vivre en amour.
Le plus grand... en français.
Ben oui. Le plus grand succès de la musique québécoise en 1976. Chanson qui a été jouée 25 000 fois selon la SOCAN, donc il a reçu des prix. Luc Cousineau, c'est un génie de la chanson qui accrochait, spécialisé dans les ritournelles publicitaires. Mais quand il faisait une chanson pop, ben disons qu'on s'en rappelait pas mal.
Oui. Car la terre sans frontières n'est pas jeu d'enfant.
Oui, des succès qui nous rentrent dans les oreilles et dans le cœur pour toujours.
Sylvain, merci beaucoup pour ces belles minutes d'amour et de musique et d'histoire. Ça a été mémorable. Merci beaucoup, mon ami.
Je te remercie. Ça a été très, très, très agréable. Tu sais que c'est mes 15 ans de radio aujourd'hui. C'est ma fête de radio.
Hey, bonne fête. Puis sais-tu quoi? T'entreprends l'autre 15 ans à minuit ce soir.
Non, demain.
Ah, demain. Ah, oui, on n'est pas vendredi.
On n'est pas vendredi.
Bon, ben, bonne... va te coucher d'abord. Okay. Bonne nuit. Merci, Sylvain. Au plaisir.
De beau temps, vivre en amour tous les jours, s'aimer tout le temps, du moment que l'on sait que la vie se vit.